Le journal vous est présenté par Jérôme Val. Bonjour.
Bonjour à tous. L'Italie entre stupéfaction et colère. 24 heures après l'effondrement du pont Morandi de Gênes, le bilan a encore augmenté à la mi-journée. 39 victimes, dont 3 Français, comme l'a confirmé le Quai d'Orsay. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels rescapés. Nous serons à Gênes au début de ce journal. Nous évoquerons aussi la polémique qui enfle sur l'entretien des infrastructures vieillissantes en Italie. Et qu'en est-il en France? Nous poserons ces questions à notre invité ingénieur des ponts. L'Aquarius devrait toucher terre dans les prochaines minutes, comme prévu à Malte, où pourront débarquer les 141 migrants à bord. L'île méditerranéenne qui sort gagnante de l'accord trouvé par l'Union européenne. Les universités françaises encore loin derrière leurs homologues américaines, c'est le constat désormais habituel du classement de Shanghai. La météo et un mercredi estival pour la plupart d'entre nous, Jean-Pierre Amouf.
Oui Jérôme, le soleil va briller sans partage dans la plupart des régions cet après-midi, à l'exception de la Corse, où le ciel sera encore bien chaotique, lâchant par moments des averses parfois orageuses et des bords de Manche où les nuages bas auront toujours du mal à se dissiper. Les températures sont un peu justes pour la saison près des côtes de la Manche. N'attendez pas plus de 22 degrés à Brest et Cherbourg par exemple. Partout ailleurs, les valeurs attendues seront plus conformes au normal de saison en évoluant de 25 à 33 degrés du nord au sud.
Au sommaire de cette édition également, l'accès restreint au Mont Blanc pour éviter la surpopulation de touristes. Un entraîneur de foot qui menace violemment un journaliste. Et l'Inde qui promet d'envoyer un homme dans l'espace d'ici 4 ans.
France Inter.
Le bilan s'est donc encore alourdi ce matin à Gênes, 24 heures après l'effondrement d'une partie d'un viaduc. 39 morts, dont 3 Français. Le Quai d'Orsay l'a confirmé en milieu de matinée. 3 jeunes Français qui venaient de Montpellier et comptaient embarquer pour la Sardaigne. Le ministère n'exclut pas de retrouver d'autres victimes françaises. Il y a aussi 15 blessés, dont 12 dans un état grave. Les opérations se poursuivent pour rechercher d'éventuels rescapés. Delphine Evenou, bonjour. Vous êtes à Gênes pour France Inter. Alors les secouristes ont-ils encore un mince espoir de retrouver des survivants ?
Eh bien Jérôme, c'est un symbole mais qui a son importance pour des équipes qui travaillent d'arrache-pied depuis 24 heures. Il y a une heure, ils ont retrouvé un chien vivant dans les décombres. Alors les centaines de secouristes s'activent avec l'aide notamment de 2 immenses grues pelleteuses qui soulèvent les énormes blocs de béton. Tout cela sous une chaleur de plomb. Federica Bonelli est coordinatrice à la Croix-Rouge italienne.
Les secouristes continuent de travailler. L'espoir de retrouver des vivants est faible, mais ils continuent de le faire. On avait encore il y a peu des familles de disparus qui attendent ici des infos, donc on travaille pour eux aussi. C'est un espoir différent, mais ce travail doit être fait.
Et on estime qu'on peut retrouver des survivants 5 à 6 jours après ce type de catastrophe.
Alors Luigi Di Maio, vice-premier ministre et chef de file du mouvement 5 étoiles, doit se rendre sur place à Gênes en attendant le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, dans l'après-midi. Un gouvernement, Delphine, qui fait feu de tout bois depuis hier, audit sur les infrastructures et menace sur la compagnie qui exploite ce viaduc.
Oui, dès hier, dans la soirée sur place, le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a prévenu toutes les archives sur le pont Morandi. Toutes les informations existantes seront épluchées. Il a annoncé également un audit repris ce matin par son ministre des Transports, Danilo Toninelli, qui dans une interview à la RAI a confirmé un audit général des ponts et tunnels vieillissants dans tout le pays. Le ministre pointe du doigt sans ménagement la concession autoroutière Autostrade per l'Italia. Il exige la démission des dirigeants de cette société et une sanction financière jusqu'à 150 millions d'euros. Des accusations identique lancée en amont et en aval par Matteo Salvini, l'hyper-ministre de l'Intérieur d'extrême droite, qui dans le style qu'on lui connaît dénonce aujourd'hui les milliards d'euros de profits sur les péages faits par cette société sans investissement en retour. Salvini a attendu ici cet après-midi. L'Italie, elle, en tout cas, semble avoir trouvé un responsable à la tragédie génoise. La société, elle, assure avoir mené toutes les vérifications nécessaires.
Merci Delphine Evenou depuis Gênes avec les moyens techniques de Romain Lucquens. Le gouvernement italien à l'offensive donc, mais des voix s'élèvent aussi pour dénoncer le discours ambigu du mouvement 5 étoiles, par exemple aujourd'hui au pouvoir. C'est le cas de Massimo Nava, éditorialiste au Corriere della Sera basé à Paris.
Aujourd'hui, il y a aussi une polémique sur les 5 étoiles qui a toujours bloqué des grands projets alternatifs à cette pompe. Le comité des 5 étoiles de Gênes disait que le danger de cette pont, c'est une blague. Aujourd'hui, c'est très facile d'accuser des techniciennes, des responsables de l'autoroute, des fonctionnaires, mais le problème, c'est la responsabilité culturelle de la classe politique dans les dernières 20 ans. C'est un pays qui a renoncé à projeter son futur.
On l'a entendu, le débat ne fait que commencer pour comprendre ce qui a pu provoquer ce désastre. Beaucoup d'interrogations sur ces infrastructures. L'invité du 13h sur France Inter est Anne-Bernard Gély. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieure des ponts et directrice générale de l'Association de l'industrie cimentière française. Alors il faudra sans doute du temps pour comprendre exactement ce qui s'est passé, mais votre regard d'ingénieur sur ce viaduc construit il y a un demi-siècle, la structure de l'ouvrage peut-elle être mise en cause comme c'est le cas en ce moment ?
Bonjour. Oui, je ne connais pas exactement le cas de Gênes. Hein. Je l'ai su que par la presse hein, actuellement, donc j'ai pas les dossiers techniques. Hein. Mais il est sûr que donc c'était une structure innovante hein, dans les années 60 et on n'avait pas toutes les connaissances à cette période sur la façon dont les matériaux réagissent. Par exemple, les câbles en acier, bon, ils fluent, ils se relâchent. Hein, donc on appelle ça le phénomène de fluage et de relaxation des câbles en acier. Le béton, il y a aussi des phénomènes tout à fait connus de retrait et de fluage qui se mettent en œuvre après la construction, mais pendant une longue période. Et si vous voulez, c'est vrai que dans les années 60, on ne connaissait pas assez bien, on ne pouvait pas prévoir exactement les conséquences de ces phénomènes. On les connaissait bien, mais on ne savait pas les calculer.
Mais il y a de l'entretien, Il y avait eu des travaux il y a 2 ans. D'autres chantiers de rénovation étaient d'ailleurs en cours. Est-ce que l'entretien de cet ouvrage peut être pointé du doigt, comme d'ailleurs, on l'a entendu, le fait le gouvernement italien?
Oui, je pense, enfin, je connais pas le cas précis, mais je sais que, en fait, j'ai un peu l'impression qu'on a fait des petites rustines, hein, et pas de vraies réparations structurelles. En France, on a connu, par exemple, le pont de Tancarville qui a été construit pas tout à fait la même technique, mais aussi avec des câbles et dans la même période. Et les ingénieurs s'étaient rendus compte qu'il y avait des problèmes de corrosion des câbles de précontrainte. Et ils les ont changés en 96, 35 ans après la construction de l'ouvrage. Ça n'a pas été facile. C'est des réparations qui sont souvent coûteuses parce que c'est difficile de couper des itinéraires, d'empêcher le passage des véhicules. Là, le pont de Gênes est tout à fait très important dans la circulation. C'était pareil pour le pont de Tancarville. Mais ils ont su faire des réparations dans les années, à la fin des années 90 pour effectivement changer les parties de l'ouvrage qui étaient défectueuses. Et ça n'a pas été facile, ça a été cher. D'autant plus qu'on n'avait pas prévu le changement des câbles au moment de la construction.
On n'avait pas forcément aussi prévu, Anne-Bernard Gély, l'augmentation importante, énorme même du trafic. Ce sont des millions de véhicules. Est-ce que ça peut être aussi mise en cause, le fait de ne pas avoir prévu, c'était dans les années 60, il y avait forcément beaucoup moins de véhicules qu'aujourd'hui.
Oui, tout à fait. C'est sûrement une raison, mais si vous voulez, cette raison, on peut renforcer l'ouvrage au cours ensuite dans sa phase de vie. Hein. Donc, il n'y a pas de problème pour le renforcer. On aurait pu rajouter des câbles, rajouter des éléments. Enfin, le dimensionner, c'est arrivé en France. Hein. Ça, on sait le faire. C'est toujours compliqué. C'est toujours difficile, mais ça se fait. Mais effectivement, le fait que l'ouvrage soit plus chargé que ce qui était prévu en phase de construction, c'est sûr que c'est un problème.
Alors
c'est
évidemment, la question se pose chez nous aussi, en France, les ponts, les viaducs, sont-ils sûrs ? Est-ce qu'on en est certain aujourd'hui ?
Écoutez, je pense qu'en fait, en France, les ponts du type de celui de Gênes, hein, il y en a quelques-uns, il y en a un certain nombre en France, mais pas tant que ça. Et les maîtres d'ouvrage, qui sont l'État, les sociétés d'autoroute, les conseils généraux, en général, les vérifient. Enfin, en tout cas, le CEREMA, qui est l'organe technique hein, du ministère de l'écologie, a sorti plusieurs instructions à la disposition des maîtres d'ouvrage et ils sont engagés pour justement surveiller et entretenir les ouvrages.
Parce il y a des contrôles.
Ah oui, tout à fait. Hein, tout à fait hein. Donc, en France, il y a vraiment des règles de surveillance et d'entretien qui sont vraiment suivies. Hein.
Un dernier mot rapide, Anne-Bernard Gély. Est-ce que ce drame de Gênes va changer les normes en vigueur ou même la façon de construire des ponts ?
Je pense pas, parce que en fait les règles existent, on a les Eurocodes pour on a tout un tas de règlements, des instructions très claires, mais le problème c'est qu'il faut qu'elles soient appliquées, hein. Et puis je suis pas sûre que les matériaux, quand ils ont été construits, quand ils ont été ceux qui étaient prévus au départ. Enfin voilà, il faut que respecter toutes les phases de projet, de construction, hein, quand on construit au moment de la phase de construction, elle est aussi très importante, et puis la phase d'entretien. Donc moi je pense que les règlements sont suffisant. Toutes les réglementations existent, sont claires, mais il faut qu'elles soient appliquées. Là, je pense que c'est vraiment un problème d'application.
Merci beaucoup Anne-Bernard Gély d'avoir été avec nous dans le journal de 13h sur France Inter. Vous êtes ingénieure des ponts et directrice générale de l'Association de l'industrie cimentière française. L'errance de l'Aquarius devrait prendre fin dans les prochaines minutes. Le navire de SOS Méditerranée doit accoster dans un port de Malte dans moins d'une demi-heure. Les 141 migrants qui se trouvent à son bord vont pouvoir débarquer après 5 jours en mer. Malte a donc accepté de servir de base logistique pour ces personnes qui seront ensuite réparties entre la France, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne et le Luxembourg. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour.
Alors Malte réussit un tour de force. L'île se donne une image de générosité tout en restant inflexible sur sa politique migratoire.
Oui, Malte avait annoncé dès la fin du mois de juin ne plus vouloir accueillir aucun navire d'une ONG avec des migrants à son bord. Cette décision avait été prise après l'affaire du Lifeline, ce bateau de l'organisation allemande du même nom, transportant 240 réfugiés et qui avait fini par accoster dans le port de La Valette. Les migrants avaient ensuite été répartis entre différents pays européens, dont une cinquantaine en France. Depuis, Malte, qui a longtemps servi de base à des ONG de secours en mer, ne veut plus les accueillir, tout en respectant, il faut le dire, les normes humanitaires. Ainsi, avant-hier, 114 migrants en perdition sur un canot ont été secourus par un navire de patrouille maltais dans les eaux internationales et conduits à Malte. Le cas de l'Aquarius est différent puisqu'il s'agit de réfugiés récupérés au large de la Libye par un navire appartenant à une ONG. La plupart d'entre eux ayant déjà trouvé un pays d'accueil, les autorités maltaises peuvent en effet et sans grande difficulté autoriser l'Aquarius à accoster en récoltant au passage les remerciements d'Emmanuel Macron. Mais un mois et demi après le Conseil européen de juin consacré aux réfugiés, aucun pays ne s'est porté volontaire pour créer des centres d'accueil destinés aux arrivants et qui étaient prévus.
Merci Bertrand Galichet du service étranger de France Inter. C'est le 15 août, jour de pèlerinage pour des milliers de catholiques qui se retrouvent à Lourdes. 25 000 pèlerins venus célébrer la Vierge ce matin. Une messe placée sous le signe du miracle. Mais Frédéric Bourgade, les prières sont aussi allées vers les victimes de Gênes et les migrants de l'Aquarius.
2 heures avant la messe, des pèlerins arrivent devant Notre-Dame. Parmi eux, des chrétiens d'Orient, des Tamouls, des Africains et des Italiens, dont Fabrizio de Trévise qui pense aux victimes de l'accident de Gênes. Je suis surtout choqué par l'accident. Mes prières iront vers les familles et pour les personnes qui sont mortes, pour les soutenir face à l'horreur, parce que ce n'est pas un événement normal. Tous ont besoin d'être là en ce jour d'Assomption, surtout Claire, venue en curieuse en 2008. Elle est aujourd'hui réconciliée avec la religion.
Je reviens en action de grâce et par fidélité. Monseigneur André 23, à l'époque, qui présidait le pèlerinage national, nous a dit une phrase qui a fait tilt en moi pendant la messe, qui a parlé de la confession. Et pendant toute la journée, cette phrase est venue dans ma tête et cette confession a été le moment clé. Déjà, j'étais transformée.
Durant la messe, on a aussi prié pour les migrants et les malades. Lourdes, Frédéric Bourgade, France Inter.
C'est un rapport qui fait froid dans le dos. On vous en parlait dans la matinale de France Inter ce matin. 300 prêtres accusés de viol et d'abus sur 1 millier d'enfants aux États-Unis. Des faits qui se sont déroulés sur une période de 70 ans et aujourd'hui quasiment tous prescrits. Seuls 2 pourraient faire l'objet de poursuites. Le rapport le plus complet sur des sévices commis par des religieux américains a été rendu public par le procureur général de Pennsylvanie. Au lendemain de l'attaque terroriste près du Parlement à Londres, la presse britannique en sait un peu plus sur l'auteur de l'attaque. Il a 29 ans, c'est un Britannique d'origine soudanaise. Il était inconnu des services de sécurité, mais devant les enquêteurs, il n'a pas expliqué ses motivations. Des perquisitions ont été menées hier à Birmingham et Nottingham. Lula sera-t-il candidat à l'élection présidentielle d'octobre au Brésil? Ses partisans vont déposer ce mercredi à Brasilia la candidature de l'ancien chef de l'État, aujourd'hui en prison, condamné en appel à 12 ans pour corruption et blanchiment d'argent. Mais le tribunal supérieur électoral, le seul habilité à homologuer les les candidatures pourrait invalider celle de Lula. Ses soutiens sont décidés à aller jusqu'au bout. Vous retrouverez un dossier complet sur Lula et sur ses candidats sur franceinter.fr. L'Inde, à son tour, se lance dans les vols spatiaux habités. Promesse du Premier ministre Narendra Modi, faite aujourd'hui, le jour de la fête de l'indépendance. Il y aura donc un Indien dans l'espace en 2022. L'Inde a déjà placé une sonde en orbite autour de Mars il y a 4 ans. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Alors cet objectif d'envoyer un homme ou une femme dans la Lune, dans l'espace, est-il viable ?
2022, c'est une date symbolique, hein, les 75 ans de l'indépendance, et c'est à dessein que Narendra Modi a choisi ce jour, même si à l'échelle des programmes spatiaux, c'est demain 2022. Le Premier ministre indien a tenu à souligner que l'Inde deviendrait le 4e pays, après la Russie, les États-Unis et la Chine, à maîtriser le vol spatial habité. Si l'expertise de l'Inde est loin d'être négligeable, elle a sa propre fusée, elle a déjà réussi des missions scientifiques d'envergure, elle n'avait pas jusqu'ici fait de l'envoi d'astronautes une priorité. Elle a toutefois réussi un vol expérimental d'une capsule habitable il y a 4 ans. Elle a aussi commencé la construction d'un centre d'entraînement et compte sur une aide de la Russie pour encadrer la formation de 4 pilotes de chasse. Il reste donc moins de 4 ans pour parfaire la formation des Vyomanotes, le nom des astronautes en sanskrit. C'est court, mais pas irréalisable cependant. Dans le petit club des nations spatiales, l'Inde a une approche originale. Son programme, initié dans les années 60, n'a cessé de progresser. Cette année, un budget de plus 23%. À bas coût, le pays multiplie les projets et les succès. L'an dernier, le dernier en date, c'est l'envoi simultané par une même fusée de 104 satellites.
Et là encore, tous les détails sont à retrouver sur notre site internet. Un automobiliste tué par un policier la nuit dernière à Paris. Tout est parti dans le premier arrondissement où le chauffeur a refusé de se soumettre à un contrôle. S'en est suivi une course-poursuite jusque dans le 9e arrondissement. Le conducteur a fait une marche arrière sur le policier qui a tiré. Le gardien de la paix a été placé en garde à vue. La police des polices a été saisie. C'est désormais une constante depuis plusieurs années. Les universités américaines sont les mieux notées au monde. Le traditionnel classement de Shanghai le confirme en plaçant 8 établissements américains parmi les 10 premiers, avec en tête Harvard pour la 16e année consécutive. Et pour trouver une université française, il faut chercher beaucoup plus loin. Sorbonne Université est 36e. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour.
Vous avez épluché ce rapport et c'est vrai que les universités tricolores connaissent des fortunes diverses.
Oui, avec un trio tête composée donc de Sorbonne Université, fusion de Paris-Sorbonne et Pierre et Marie Curie, et on va le voir, ce n'est probablement pas anodin, suivi de Paris-Sud sur le plateau de Saclay et de l'École Normale Supérieure qui monte aussi un petit peu. Un bon cran derrière arrive Aix-Marseille, Strasbourg et Paris Diderot, Nice, Sophia Antipolis que présidait Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement Supérieur, sort, elle, du classement un coup dur et Bordeaux recule de manière significative à la 11e place du peloton français. Alors au-delà peut-être d'un déficit d'excellence scientifique, la fragilité de certaines universités françaises dans ce classement peut s'expliquer par le fait que les regroupements d'établissements à l'œuvre depuis plusieurs années en France sont encore parfois inaboutis. Ça donne pourtant de la visibilité aux universités. Et puis dans ce classement de Shanghai, seuls les médailles Fields et les prix Nobel comptent, un peu réducteurs pour certains. Exit aussi les publications CNRS qui posent problème. Les résultats sectoriels publiés par le classement et dont on parle moins, sont eux beaucoup, beaucoup plus favorables à la France, avec notamment dans le secteur de l'écologie, cette première place mondiale, s'il vous plaît, de l'Université de Montpellier qui détrône cette année Oxford, et ce n'est pas rien.
Tout est question de point de vue. Merci Claire. On vous emmène maintenant sur les pentes du Mont Blanc, le toit de l'Europe, très prisé par les randonneurs, entre 20 et 30 000 chaque année, au point qu'il faut maintenant restreindre l'accès. L'arrêté préfectoral qui va dans ce sens a été une nouvelle fois prolongé. Désormais, pour gravir le Mont Blanc, il faut avoir une réservation au refuge du Goûter, un refuge de 120 places situé à 3 835 mètres d'altitude. Reportage pour France Inter de Laurence Méride.
Des bâtons, des crampons et des sacs à dos bien remplis. Le brouillard qui entoure la montagne ne décourage pas Rodrigo, Romain, Félix et Lionel. Les quatre amis célèbrent leur 40e anniversaire ensemble avec un objectif, atteindre le sommet du Mont Blanc. Avant, ils vont passer la nuit au refuge du Goûter. Le contrôle des réservations mises en place par la préfecture aurait pu compromettre leur ascension.
Dans la mesure où on avait 3 places au refuge, J'aurais pu, moi, éventuellement, ne pas pouvoir venir. Le meilleur, c'est Romain.
J'ai passé 4 jours à me connecter 100 fois par jour, en espérant qu'une place se libère. Un matin, la 4e place du 14 s'est libérée.
Tous les jours, c'est plus d'une centaine de personnes qui empruntent le sentier de Saint-Gervais pour rejoindre le refuge du Goûter. 1000 mètres plus bas, Isabelle les voit défiler devant son refuge au Nid d'Aigle. Depuis l'arrêté préfectoral, les visiteurs prennent plus de précautions.
On constate quand même depuis quelques temps des annulations au niveau des réservations. Les gens sont beaucoup plus prudents et raisonnables.
L'arrêté est prolongé jusqu'au 17 septembre, mais Jean-Marc Payex, maire de Saint-Gervais, sensibilisera la population même au-delà de cette date.
Ce qu'a fait le préfet aujourd'hui, il n'a fait que rappeler la règle. Donc on la rappelle régulièrement, mais on la rappelle et elle est obligatoire. Toute l'année.
Depuis le début de l'été, un randonneur a trouvé la mort sur le sentier de Saint-Gervais contre 15 l'an dernier.
Des menaces d'un entraîneur sur un journaliste en marge d'un match de football. La scène s'est déroulée vendredi après la rencontre de National, la 3e division entre Boulogne et Laval. L'entraîneur du stade lavallois, François Ciccolini, s'est emporté après une question anodine de notre confrère de France Bleu Mayenne. Des mots, vous allez l'entendre, assez surréalistes. Le récit de Didier Charpin.
Au début, c'est une classique interview d'après-match. Si François Ciccolini montre une pointe d'irritation, c'est contre ses joueurs.
En perdant tous les duels, on ne peut pas mériter de gagner ou de faire machine à l'extérieur.
C'était quoi le problème? C'était technique? C'était les conditions? Ou vous êtes trompé sur la composition d'équipe?
Ah, ça c'est vous qui le dites. Hein. Pourquoi? Dites-moi, qu'est-ce que vous auriez mis?
L'échange est interrompu parce qu'il se tient dans un couloir du stade. L'entraîneur et le journaliste sont donc invités à rejoindre la salle de presse. En chemin, François Ciccolini durcit le ton face à notre confrère qui n'a pas éteint son enregistreur, mais tente de dédramatiser.
Il me pose toujours des mauvaises questions. Je vais
ah bon
mal. Peut-être que je vais te frapper de tête par terre.
Aïe, aïe, aïe. Ah, mais j'ai la tête dure, là.
Tu veux que je vienne, tu veux que j'aille chercher dans mon sac ce qu'il faut? Tu vas voir, je vais te frapper un coup de crosse dans la tête.
Aïe,
tu vas voir.
C'est... Mais après, mon chef, il va pas être content, un arrêt maladie.
C'est vrai, mais peut-être que tu auras plus d'arrêt court. Tu veux m'emboîter?
Ah non, non.
Ou tu veux que je te déboîte?
Coup de crosse, tu veux que je te déboîte? Des allusions lourdes de sous-entendu, notre confrère a porté plainte contre François Ciccolini. La justice sportive pourrait aussi avoir à se prononcer. La commission de discipline de la Fédération française de football a été saisie de l'incident.
Et peut-être le début d'un rapprochement, puisqu'à l'instant, le club de Laval publie un communiqué où l'entraîneur François Ciccolini présente ses excuses. Ses paroles ont dépassé sa pensée. Peut-on lire dans ce communiqué? Les prévisions météo à 13h22 sur France Inter sont signées. Jean-Pierre Hameau, l'été n'a pas dit son dernier mot.
Le temps est estival cet après-midi sous un soleil généreux, excepté vers les bords de Manche où les nuages bas auront bien du mal à se dissiper. À noter la formation de cumulus bourgeonnant au-dessus des Alpes frontalières, lâchant quelques averses uniquement sur le relief. Et du côté de la Corse, persistance d'un temps instable avec un régime d'averses orageuses. Côté température, les maximales cet après-midi ne dépasseront pas 22 ou 23 degrés le long des côtes de la Manche. Partout ailleurs, elles seront en hausse et comprises entre 25 et 33 degrés. Demain jeudi, persistance d'un temps chaud et bien ensoleillé dans la plupart des régions. Toujours un peu plus de nuages près des bords de Manche. À prévoir une dégradation pluvieuse en cours d'après-midi par l'ouest du pays.